Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Que du bon. On parle de gastronomie, de producteurs, d'agriculteurs, de gens qui sont proches de la terre et de la nature. On parle aussi de restaurateurs et de vignerons. Et aujourd'hui, on parle surtout commerce et vin en compagnie de Gauthier qui est à la cave à vin Assemblage, qui a créé cette cave à vin avec son épouse Annelise il y a quelques années maintenant. Bonjour Gauthier.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça va très très bien, merci.
Alors, nous on s'était rencontrés pour le magazine Épicurienne Lotoise du mois du printemps, donc c'est mars, avril, mai. Et on avait parlé de ta cave à vin et de la façon dont vous travaillez avec ton épouse. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours ?
Alors mon parcours, il est autour du vin depuis 15 ans maintenant, puisque j'ai fait mes études dans le vin, que ce soit à Montpellier ou Bordeaux, dans la partie commerce vin, hein, je suis pas œnologue, mais voilà, passionné par le vin dès mes études, et je n'ai eu de cesse que d'essayer de comprendre, d'en savoir plus, de voyager, puisque le vin a cette vertu qu'il est fait dans plein d'endroits dans le monde, et donc on peut voyager, aller dans plein de pays, voir comment on en parle, comment on le fait, comment on le déguste. Et ça fait 15 ans et 6 ans maintenant à Cap-de-Nac que je travaille dans ce monde formidable où on peut en faire, on peut en parler, on peut en vendre, on peut faire beaucoup de choses autour de ça. Et on a toujours des choses à apprendre et à partager. Et ça, c'est ça qui est formidable.
Ouais. Ouais, bien sûr, c'est un domaine où on peut apprendre constamment, en fait, toute sa vie.
J'avais, quand je travaillais, c'était en Nouvelle-Zélande, j'avais un maître de chez qui me disait « Non, mais dans le vin, de toute façon, on va tous mourir idiots, parce que plus on en sait, plus on voit l'étendue de ce qu'on ne sait pas encore. » Et plus on s'intéresse à un sujet, plus on creuse, plus on voit qu'il y en a encore à savoir, à faire. Et je trouve que ça se transmet énormément quand on fait des dégustations à l'aveugle. Donc c'est qu'on va aller goûter un vin sans savoir quel est ce vin. Alors un vin ou un liquide, puisque ça peut être un spiritueux, une bière ou autre. Et on voit à quel point c'est compliqué de faire... Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que c'est un petit peu l'école de l'humidité où on est obligé de se tromper sur ces aspects-là. Quoi.
Bien sûr. Et obligé d'apprendre et de rechercher un petit peu tout le temps les infos au quotidien. Quoi.
Et la meilleure moyen d'apprendre pour nous, en tout cas, et c'est ce qu'on fait à la cave, c'est ce à quoi on s'évertue, c'est systématiquement aller voir les vignerons. Voilà, sur... on doit avoir 450 références à peu près de vin, hein, plus ou moins, et allez, dans 80-90% des cas, on va systématiquement voir les vignerons pour voir, pour comprendre comment ils travaillent, quelle est la tête un peu de leur vigne, de leur chai, de l'environnement. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on leur demande comment vous faites, ils nous disent « Oh ben, comme tout le monde ». Mais en fait, non, on ne fait pas du vin comme tout le monde. Chaque vigneron a sa façon de faire, que ce soit dans la vigne, que ce soit dans le chai, et tout ce qu'il peut avoir entre. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir à quel point il y a tellement de paramètres qui peuvent influer sur le goût final et sur le moment qu'on va pouvoir partager autour d'une bouteille, que c'est génial et c'est passionnant d'aller voir ces vignerons-là et d'échanger avec eux et de comprendre un peu leur parcours, leur histoire et comment ça peut se retrouver à la fin dans la bouteille.
Oui, parce qu'en fait, le vin, c'est aussi une sorte d'histoire d'amour, en fait, entre le vigneron, sa terre, et sa façon de faire et de transmettre son métier, quoi.
Ouais, absolument, ouais, c'est une histoire, en plus, qui se transmet, et pareil, quelqu'un me disait une fois, faire du vin, c'est pas de l'art, c'est une philosophie, et c'est vrai que la façon dont on va aborder l'écosystème dans un premier temps qu'on aura autour de la vigne, de voir s'il y a des, de voir si les coteaux, enfin le terroir en fait, tout simplement, donc qui sont le sol, le sous-sol, le climat, l'encépagement, la façon dont la vigne va être orientée par rapport au soleil. C'est toute cette façon-là de voir comment le vigneron va tâcher de comprendre ce qui l'entoure. De comprendre l'histoire d'amour ou pas, hein, parce que parfois c'est un peu de l'amour, hein, la vigne et le climat le rend pas forcément tout le temps au vigneron. Et on passe notamment à deux millésimes là qui ont été plus que délicats entre le gel et la sécheresse, mais c'est voir comment le vigneron va réussir à s'intégrer et à faire donner une expression au terroir et à la façon dont il va réussir à extraire tout ça et à le rendre à la bouteille. Et c'est toujours passionnant de voir deux parcelles qui sont côte à côte et comment elles ne sont pas du tout pareilles, comment l'enherbement entre les pieds de vigne, entre les rangs de vigne, comment les qu'on va, on aura autour ou pas, comment la vigueur de la vigne va être là, le type de cépage va aussi avoir donné un aspect différent au vignoble. Et ça, c'est le travail du vigneron, et c'est comment il a abordé, comment il a travaillé, comment éventuellement son père ou sa mère a travaillé avant lui. Et tout ça, c'est passionnant à voir, et on en apprend toujours quand on va voir les vignerons, c'est hyper important. Ouais.
Bien sûr. Et puis après, c'est ce que vous pouvez transmettre aux clients, parce que quand vous avez cette vision sur comment est fait le produit, tu peux le vendre de manière plus facile aussi. Quand tu aimes le produit, tu le vends plus facilement.
C'est indispensable. Ouais. C'est indispensable. On est le trait d'union entre le vigneron et le consommateur. On va pas expliquer au vigneron comment il faut faire le vin. On va pas aller forcément dire au consommateur qu'est-ce qu'il doit faire avec le vin. Ça nous appartient pas. On n'est pas des sommeliers, nous. On va pas servir le vin. C'est pas nous qui le servons. On va juste tâcher de comprendre au mieux comment le vin, ou encore une fois la bière ou le spiritueux, va être consommé, dans quel univers ça va l'être lors de la dégustation, comprendre quelles sont un peu les attentes et quels sont les goûts de la personne. Et en fonction de ça, notre but, ça va être d'aiguiller, de retranscrire au mieux ce que le vigneron a pu nous faire passer comme message, et puis tâcher d'expliquer à la personne comment il va devoir servir au mieux le vin, comment il va pouvoir le préparer ou pas en fonction de ça, et puis surtout, désacraliser. Ça reste du vin, c'est pas la chose la plus complexe qui soit au final. Dans son ensemble, si on essaye de prendre la globalité, effectivement, c'est infiniment complexe. Mais au final, quand on débouche une bouteille d'un blanc sec, là on a les beaux jours qui arrivent, entre copains pour boire l'apéro, c'est pas compliqué. Il faut juste pouvoir passer un bon moment. Il faut pas se prendre la tête, il faut pas forcément faire une dégustation à l'aveugle. Il faut juste passer un bon moment agréable, et que ce soit pas compliqué de se dire est-ce qu'on a la bonne température de service, est-ce qu'il faut carafer, il faut juste passer un bon moment. Et c'est là où on doit aussi rassurer les personnes. Parfois, on a des clients qui ont un petit peu peur de pousser la porte de la cave, parce qu'ils se disent voilà, je n'y connais rien en vin, je vais passer pour un guignol devant le caviste. Mais jamais personne ne passera devant un guignol devant un caviste. Au contraire, il faut arriver avec humilité ou envie, mais venir chez les cavistes de son quartier, de son village, de sa ville, parce qu'il aura toujours la bouteille qui nous fera passer un bon moment. Il ne faut pas hésiter à passer le seuil de la cave pour aller échanger avec son caviste.
Oui, bien sûr, c'est super important. Et alors, une petite transition qui va peut-être te faire rire, mais vous n'êtes pas là pour vendre le monde, et on écoute Nirvana.
D'accord.
The Man Who Sold the World. C'est la chanson que tu as choisie. Alors, il y a une raison ou pas?
Ça me rappelle l'adolescence où j'ai écouté cet album en boucle.
Ouais, ok. On écoute ça un petit peu. We passed upon the stairs, spoken walls and well, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, we never lost control, the face to face of the man who sold. Alors, on l'a compris, vous avez une relation privilégiée avec les vignerons que vous allez voir régulièrement. Et ça vous permet des fois de connaître des cuvées qu'on ne voit pas partout.
Alors, c'est le but aussi. Alors, c'est de surtout même pas voir des cuvées qu'on voit partout, notamment en grande distribution, parce que le but, voilà, c'est d'avoir des choses un peu parfois confidentiel qu'on ne rencontre pas partout. Puis on a la chance inouïe, puisque nous, bon, on a un Cap de Nac, mais un Aveyron, mais aussi dans le Lot, mais l'Aveyron particulièrement quand même, d'avoir ces petites appellations, ces petits vignerons. Puis et ça, c'est le sud-ouest dans son intégralité. Donc quand je parle du sud-ouest, on parle d'Irolégui, on va jusqu'à Millau. Hein, donc Irolégui, c'est un vin basque, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, ça va vraiment... dans le grand sud-ouest, d'avoir une diversité de cépages qui est unique. Alors, certainement unique en France, pas dans le monde, parce qu'il y a d'autres régions où ils sont très accrochés à leurs cépages régionaux, ils ont bien raison. Mais il y a cette diversité de cépages-là, et notamment sur des cépages qui, pour diverses raisons, ont... Alors, le cépage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la variété de raisin. Hein, vous connaissez sûrement tous le Merlot, le Cabernet Sauvignon, le Sauvignon, la Syrah. Voilà, tous ces cépages-là qui sont des grands cépages qui sont d'origine française la plupart du temps et qui se sont énormément exportés, qu'on retrouve partout dans le monde. Et il y a 50, 60, 70 ans, on avait, et notamment dans le sud-ouest, une richesse de cépages qui était colossale. Alors... ça peut être le Mosaque qu'on va retrouver du côté de Gaillac, ça peut être le Mansois qu'on va retrouver à Millau, le Fercel, à Millau, puis surtout à Marciac, voilà, un cépage qu'on connaît bien à l'Aveyron, qui s'appelle aussi le Fercel Vadou. Mais il y en a plein d'autres, si je vous parle du Mouissagès, du Rousselou, de ces cépages-là qui, eux, ont quasiment disparu à une époque, parce que ces cépages-là avaient pas forcément les rendements qu'on cherchait à un moment donné. On cherchait vraiment à faire du productivisme, ou alors qu'il y avait comme défaut de pas assez produire d'alcool. Et bien aujourd'hui, on s'aperçoit que grâce à des vignerons hyper talentueux, et bien ça revient. Je pense à Olivier Basset qui fait du vin à Cransac sur le bassin. Penser que c'est totalement improbable, mais il a une collection de cépages qui est assez dingue sur son domaine, et il fait voilà le Mouissagès, qui est un cépage qui selon les millésimes entre 10,5 et 11,5 degrés d'alcool.
C'est un cépage rouge
okay. Absolument, ouais. C'était vraisemblablement le cépage qu'on avait sur la haute vallée du Lot il y a 50, 60, 70 ans, qui a quasiment disparu parce qu'il faisait pas assez d'alcool, parce que cette région-là où il y avait beaucoup de vignes à une époque, on a arrêté de produire du vin parce que le vin venait plutôt du Midi à cette époque, voilà, pendant longtemps, et c'est encore le cas, mais ces gens-là, voilà, vont aller chercher ces vieux cépages-là qui ont failli disparaître, et vont aller les réessayer, les revinifier. Et puis on va se retrouver avec des choses exceptionnelles, voilà, comme le Rousselou en blanc, où là on va être du côté de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, avec le domaine du Verdus qui va faire ce cépage blanc qui est formidable, qui est goûteux, qui est juteux. On a des arômes de fruits à chair blanche, de pêche, de poire. On a une acidité formidable. Et vous voyez, là, sur le millésime, sur les millésimes récents, on a eu des millésimes très très chauds avec beaucoup d'alcool. On aurait dû avoir des degrés d'alcool très élevés. Là, on est à des vins qui sont à 11,5. Et ça fait des vins hyper digestes, faciles à boire. Et c'est grâce à ces vignerons-là, à ces passionnés-là, qui sur notre territoire, notamment sur l'Aveyron, mais on va le retrouver aussi dans le nord du Lot par exemple, sur une toute petite IGP qui s'appelle les Coteaux de Glane.
Oui.
Il va avoir un cépage qui s'appelle le Ségalin, voilà, par personne d'autre de là, et ils continuent à le chérir, à le mettre dans leur encépagement, à en replanter, et c'est passionnés-là qui font qui se battent contre une certaine uniformisation du goût, où on essaye d'avoir le Chardonnay qui a toujours le même goût, le Sauvignon qui a toujours le même goût, la Syrah qui a toujours le même goût. Mmh. Et c'est formidable d'aller chercher ces vignerons-là et de les mettre en avant, et on les trouve pas partout parce que c'est des cuvées hyper confidentielles, c'est tout petit. Je parle du Mouissagès, voilà, c'est quelques centaines de bouteilles par an, c'est minuscule. Mais on en a, et on est content de l'avoir, et on est content d'avoir des vignerons comme Olivier Basset qui fait ce travail-là de préservation de ce cépage qui est formidable.
Ouais, et puis c'est vrai que la façon dont vous mettez ces personnes-là en avant, c'est très important, je trouve. Et puis même pour la découverte, nous en tant que clients, quand on va dans une cave à vin, C'est vrai qu'on revoit, surtout globalement, quand on reste sur la même région, on revoit toujours à peu près les mêmes choses. Et quand on aime bien découvrir quelque chose de nouveau, on est content d'aller dans votre cave à vin parce qu'il y a toujours un super conseil. Vous êtes super ouvert. Et ce que tu disais tout à l'heure, le fait de désacraliser aussi le monde du vin, parce que ça paraît très fermé, les gens ont l'impression de ne pas y avoir accès et tout. Et le fait que vous puissiez mettre ces personnes-là en avant et dire, bon, ben voilà, on va faire ça, on vous donne un conseil. Et je pense que c'est important comme démarche, ouais.
Ben c'est important, et puis c'est en fait avec plaisir, avec passion, avec envie. Parce que c'est compliqué d'être à la fois un très bon viticulteur, mm-hmm. donc de faire du très bon raisin, dans des bonnes conditions, de comprendre le sol, le terroir. C'est extrêmement compliqué d'être un bon vinificateur, donc de vinifier, de transformer la grappe de raisin en vin. Et puis de l'embouteiller, mais c'est encore plus compliqué d'être un bon viticulteur, vinificateur et commerçant derrière, d'aller en parler ouais. de ce vin, de prendre son bâton de pèlerin et puis d'aller dans les caves en France et ailleurs dans le monde. Et c'est pas forcément possible de faire tout ça. Et donc nous, voilà, encore une fois, on est le trait d'union et on tâche d'aider ces vignerons-là, d'aller les voir, d'aller au devant de ces vignerons-là, parce qu'on a beaucoup de vignerons stars, voilà, qu'on connaît et qui ont grand succès, parce que eux ont ce talent de savoir parler, de savoir faire du bon vin et de savoir en parler. C'est pas le cas forcément de tous les vignerons, mais c'est pas parce qu'un vigneron ne sait pas forcément bien parler de son vin
que
son vin n'est pas bon et puis qu'il a pas le droit d'en vendre tous les ans, parce que voilà, je parle des vins d'ici, mais je pense à un autre vigneron par exemple qui est formidable, que j'adore. Qui est à Van Nargues, à côté de Montpellier, Guillaume Daumont. Il a un tout petit vignoble qu'il a hérité de son père. Son père il s'est converti au bio dans les années 80, au tout début des années 80. Une fois il est pris du phytosanitaire, il s'est mis à perdre ses cheveux. Donc ça a été un déclic pour lui. Il s'est mis en bio. Voilà, il est en bio depuis 40 ans maintenant. Et c'est pas forcément quelqu'un qui est exceptionnel sur la vente de son vin. Mais son vin, il a un rapport qualité-prix exceptionnel. Lui, vous voyez, mais on parlait de cépages rares, on y revient, hein, mais il travaillait avec du Terre Blanc, qui est un cépage qu'on retrouvait beaucoup dans la Languedoc il y a quelques dizaines d'années, qui disparaît un peu, mais qui est un cépage super, et il le remet au goût du jour, il le revinifie, il le refait travailler, il a repris une vieille parcelle qui était dans son village, et on a des vins à... Donc on va sortir à la cave à 7 euros, qui sont en bio, qui sont d'un vigneron indépendant, qui sont super qualitatifs, d'une régularité exceptionnelle. Il a des cuvées plus haut de gamme, voilà, il fait un travail formidable. Et c'est pas parce qu'il n'est pas médiatique, c'est pas parce qu'il n'a pas une page Instagram qui déborde d'idées, ou du TikTok, ou tout ça, ou qu'il n'a pas une presse, des grandes presses nationales qui est formidable, que c'est pas un grand vigneron. Et nous, on se régale d'aller chercher ces vignerons-là, de les mettre en avant, d'en parler. Et c'est un vrai bonheur. Il y a plein de super vignerons comme ça, qui sont pas des grands communicants, mais qui sont des super vignerons. Et nous, c'est avant tout ce qu'on recherche.
Ouais, bien sûr. Alors, on écoute une petite chanson que tu nous as proposée. J'étais un peu surprise sur le titre. Super Mario.
Exactement.
J'étais un peu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui... Je crois que je m'étais trompée en fait quand j'ai cherché. C'est quoi, c'est un morceau que tu connais?
C'est un morceau que je connais parce que tout simplement, mais je parlais du local et des jeunes talentueux localement, et c'est tout simplement quelqu'un de chez moi, de Cap de Nac, qui fait ça.
D'accord.
Un artiste local qui fait ça, il est plein de talent, ce garçon. Il n'est pas forcément connu, on parlait de la médiatisation, mais il fait des choses très sympas, j'aime bien.
Ouais.
Donc c'était aussi pour mettre en aval les talents locaux.
Ouais, ça marche.
Un jour t'auras qu'une seule chance, et souvent même elle t'échappera. Mais même sans son étoile on avance, on dort pas si mal dans de beaux draps. On est tous des acteurs ratés, personne n'a le choix du scénario. On va sûrement se planter, on n'habite pas dans Super Mario. La vie c'est parfois des moments qui sont plus forts que nous, mais qui a déjà vécu sans s'écorcher les genoux. N'habite pas chez Super Mario, les carapaces ne protègent pas de tout. On peut pas repartir de zéro quand le karma prépare un mauvais coup. Toi t'étais le plus rapide, voilà que tout le monde te passe devant. Mais Dis-toi que l'esprit intrépide se fiche de n'avancer qu'en fauteuil roulant. Tout ce qui t'arrive laisse des traces. Cherche pas, on n'écrase pas la sauvegarde. Et puis un jour les ennuis s'effacent, on apprécie mieux la joie quand elle tarde. Collectionner les pièces ne donne pas plusieurs vies, mais si tu ne recules devant rien, et que pour te pousser y a toujours un ami, tu pourras tracer ton chemin. On est tous des acteurs ratés, personne n'a le choix du scénario, on va sûrement se planter. On n'habite pas dans...
Alors l'artiste c'est comment le nom?
Alors je connais son nom de scène m'échappe, c'est Irama. Pas son nom de scène exactement en tête.
D'accord.
Je sais qu'il voudra garder l'anonymat, donc voilà, je vais pas donner son vrai nom peut-être.
Ok, ça marche. Mais de toute façon, si on tape Super Mario, on le trouve quoi.
Absolument.
Ouais, de toute façon, voilà. C'est ce que j'ai fait. Au début, je croyais que tomber sur Super Mario Bros. Et puis non, c'est vachement mieux.
Merci pour lui.
Merci pour la découverte en tout cas. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'échange, c'est que les gens amènent leur propre musique, des trucs qu'on connaît pas quoi, et qui. Ça peut faire découvrir des choses aux auditeurs et ça c'est super quoi.
C'est comme c'est le but, ouais, tout à fait. Ouais.
C'est comme c'est votre
exactement.
Travail.
Ouais,
en fait.
C'est exactement. C'est vrai.
Mais dans un autre domaine. Lien, quoi. Voilà. Alors vous faites aussi, vous faites du vin, beaucoup dans le sud-ouest. Bon après vous avez aussi de toutes les régions.
Absolument.
Et vous faites aussi de la bière, bière locale.
On essaye, ouais, pareil, il y a un grand engouement pour la bière locale depuis quelques années. Et ça, c'est formidable, je tiens à le dire, parce qu'on a quand même été pendant des dizaines d'années submergés de très mauvaises bières, il faut le dire. Parce qu'il y avait voilà, quelques très grands brasseurs qui avaient un quasi-monopole. Et depuis voilà, quelques années, maintenant une dizaine d'années, juste pour donner un chiffre, alors, il faut voir ça plus précisément, mais il y a ne serait-ce que 15 ans, je crois qu'il y avait 2 ou 3 brasseurs en Aveyron.
Ouais.
Actuellement, il doit y avoir peut-être 20 ou 25. Quoi.
Ah
c'est,
oui, oui.
Et encore, les chiffres vont tellement vite que, ça va. Et puis, qui font du super travail. Quoi. Qui font vraiment du super travail. Et voilà, et je ne parle que de l'Aveyron, parce qu'il y en a aussi. Le Tarn, c'est x10. Quoi.
Ouais.
Le Tarn, il y a un vivier de brasseurs. Là, le Tarn. Exceptionnels qui font du super travail autour de Groyer, là, tout ça, je sais qu'il y a. Voilà, ça bouge beaucoup. Et c'est formidable parce qu'on était certes voilà, le pays du vin, mais on était très en retard sur la bière. Et là, voilà, il y a quelques brasseurs. Alors, je vais penser par exemple à la brasserie Dune qui est à Cajar, dans
oui,
le Lot.
Exact.
Et voilà, c'est 2 jeunes qui, lors de mariage d'un des deux, ils habitaient. C'est dans la région parisienne. Et lors de mariage de l'un des deux, là, ils ont échangé. Ils ont dit, mais le lieu est super, on pourrait faire un truc là. Et puis, de fil en aiguille, ils se sont retrouvés à lancer la brasserie Dune, voilà, qui est à Cajar, qui travaille avec des produits bio et qui fait voilà, des super bières. Ouais. Que ce soit l'Ordinaire, qui est leur bière blonde classique, qui est goûtue, voilà, qui a ses arômes de pain un peu, voilà, qui est gourmande, qui met aussi des altérantes, qui n'est pas. Voilà, qui n'est pas une bière non plus éminemment complexe, mais dont on se régale avec, et c'est le plus important. Et puis il y en a d'autres, une que j'adore vraiment particulièrement. Alors pour le coup, ça fait longtemps qu'ils sont installés. Ils sont dans le sud d'Aveyron, sur le Larzac, et ils sont paysans brasseurs, c'est-à-dire qu'ils font leurs propres céréales. Alors pareil, ils sont en bio ou alors certifiés, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, ils font leurs propres céréales, donc du seigle, ils font de l'orge, ainsi de suite, de l'avoine. Et ils font malter leurs céréales eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont aller les faire germer, en fait, légèrement germer. Et une fois qu'elles sont germées, ils vont les sécher dans un séchoir. Ils vont aller brasser ces céréales-là pour faire leur propre bière à partir de leurs propres céréales. Ça, c'est des paysans brasseurs. C'est la brasserie Cossenard, dans le sud Aveyron. Et ils ont des bières exceptionnelles, mais toutes, quoi. Et puis certaines, ils élèvent un fût de Bourbon, et on a des bières...
C'est très inventif, hein.
Ouais, exactement. Et puis, le vin, mine de rien, on a quand même des carcans dont on a du mal à se défaire. C'est-à-dire que, bon, mais vendre une capsule à vis, c'est compliqué. Alors que c'est beaucoup mieux qu'un bouchon. Mais c'est comme ça. En France, on a du mal avec ça. Soit... il faut des étiquettes très statutaires. Une étiquette, ça marche bien quand il y a un château dessus. Quoi.
Ouais.
La bière, c'est affranchi de tout ça. On peut mettre des petites bouteilles rondes, des grandes bouteilles, des canettes. On peut mettre des têtes de mort dessus. C'est beaucoup plus inventif. C'est beaucoup plus... ça bouge plus. Et c'est moins limitatif aussi. Parce que normalement, le raisin, il y a enfin, le vin, il n'y a qu'un seul ingrédient, normalement, hein, ou du moins principal, c'est le raisin. La bière, bon, ben, on peut utiliser plusieurs types de céréales. Et puis surtout, derrière, on peut utiliser beaucoup, beaucoup de houblon. Il y a, je ne sais plus combien, des centaines et centaines de variétés de houblon. Et elles vont chacune avoir des spécificités, donner un goût différent à la bière. Et les brasseurs se régalent d'aller inventer des recettes, chercher, trouver, alors, plus folles les unes que les autres, oui. Mais...
mais et c'est ça qui est beau aussi.
Et c'est ça qui est beau aussi.
Le côté créatif.
Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, ouais, ça va donner des résultats géniaux. Et, ouais. Et puis, on peut faire des lambics, on peut faire des, voilà, des brunes, des ambrées. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et tous ces jeunes brasseurs-là qui se montent, là, c'est un régal. Alors, je ne sais pas s'ils vont tous perdurer dans le temps, mais dans tous les cas, il y en a qui sont talentueux et c'est génial de les suivre. Et c'est vrai qu'on a un cœur à la cave de vraiment mettre en avant. Tous ces brasseurs-là qui se lancent et qui font du bon travail.
Bien sûr.
Parce que c'est un vrai métier aussi. Faut pas,
ouais, tout
pas,
à fait.
C'est pas parce qu'on a eu un kit faire de la bière à soi-même à Noël qu'on est brasseur.
C'est pas pareil. Après,
c'est pas du tout pareil. Derrière, il y a une étape à passer professionnelle qui est autre chose.
Ouais,
et quand ces gens-là font du bon travail, les beaux jours arrivent là. Arrêtez d'acheter des packs de toutes les mêmes bières là, en grande surface. Là.
Ouais.
Allez chez des cavistes indépendants et trouver des bonnes bières locales. Vous allez vous régaler derrière, vous ne pouvez plus revenir. Par contre, c'est le problème, on ne peut plus revenir en arrière.
C'est ça, mais c'est comme le vin. Hein. Du coup, on commence à goûter quelque chose de bon, on n'arrive plus à repartir en arrière sur quelque chose de moins équilibré. Le goût, il évolue en fait.
Absolument. Hein. Ouais. Le palais, c'est un muscle, là, il faut le faire travailler. Quand on le fait bien travailler, ben derrière, c'est compliqué de retourner en arrière. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait.
Bien sûr. Tu nous parles de la dernière chanson ?
Oui, bah c'est une chanson que j'avais dans la tête, tout simplement, quand je réfléchissais aux chansons. Je l'avais depuis le matin, voilà.
Okay.
Et je l'aime bien, je trouve qu'elle a un groove dingue, elle bouge bien.
Ouais. Moi, je connaissais pas du tout. Hein.
Bah, tant mieux. Je t'en fais découvrir 2/3.
Ah, alors. Ouais, là, c'est super.
Tant mieux, mais si on découvre, c'est comme à la cave, alors on essaie de découvrir des choses et puis ça plaît, tant mieux.
Exactement. Alors, pour ceux qui chercheraient le titre, ça s'appelle Black Myself Amethyst Kia.
C'est ça, voilà, le nom, pas forcément facile à prononcer.
Pas trop simple, non, mais bon. Black Myself, on devrait pouvoir trouver.
Plus facilement.
Voilà. Alors, on va terminer rapidement sur ce que vous faites à la cave à vin aussi, parce que vous avez développé une gamme de fromages.
Absolument.
Et donc, si tu pouvais nous en parler rapidement.
C'est ça, alors on essaye de, comme le vin, de travailler avec des fromageries locales. Alors pas que, on a du grand classique, du comté, mais voilà aussi on a plusieurs fromagers qualitatifs. Je pense par exemple du côté de Figeac à l'Aiguille là. Donc on travaille avec deux sœurs fromagères chevrières, voilà, qui ont repris cette exploitation là il y a quelques années. Elles travaillaient à Levain avant, elles avaient un bar à vin et voilà, les cabrioles de Balajou, et c'est des fromages de chèvre, des cabécous, des briquettes qui sont super bonnes là quand on les reçoit fraîches au magasin, c'est vraiment un bonheur. Et puis derrière, ça nous permet de faire avec un charcutier qui est juste à côté de nous des plateaux de fromage charcuterie avec une bonne bouteille pour l'apéritif, c'est parfait. C'est quelque chose qui est assez sympa à faire. Ça permet d'avoir une corde de plus à notre arc. Le vel fromage, ça se marie quand même plutôt très très bien.
Ouais,
et puis ça rentre un peu dans le dynamisme qu'on essaye d'apporter à la cave, où on fait des soirées dégustation de façon assez fréquente, hein. Si vous voulez plus d'informations, voilà, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et voir un peu les différents programmes. On fait un salon une fois par an, on fait venir des vignerons. On fait des partenariats avec des restaurants aussi. On fait venir des vignerons dans les restaurants. Et le vigneron fait le sommelier en fait pendant, voilà, pendant une soirée. Donc ça permet de découvrir les vins autrement, et puis sur des accords mets et vins. Et ça sublime quand même sacrément les vins, entre le chef qui sait sublimer les vins grâce à ses plats et le vigneron qui est là pour en parler. Les résultats sont formidables, c'est toujours des super super soirées. Donc il y a mille une façon voilà, d'animer la cave, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. Et puis ça, je vois aussi quand même... Voilà, nous on est dans une ville assez petite, mais ça marche aussi dans les grandes villes. Cela dit, on a quand même ce rôle social en tant que commerçant de proximité.
Bien sûr.
On l'a vu fois mille pendant le confinement. Il y avait les supermarchés qui étaient voilà, saturés, rappelez-vous. Il y avait la queue, c'était un peu anxiogène, tout le monde était dessus. Mmh. Et nous, on a eu la chance de pouvoir rester ouvert et d'être un commerce de première nécessité. Et on avait des personnes qui venaient et qui étaient tellement contentes de pouvoir sortir, aller dans un petit commerçant, acheter une bouteille pour le week-end, échanger avec la distance et toutes les règles de sécurité qu'on avait à l'époque. Mmh. Et on a réussi à garder ce lien-là, et ça a montré vraiment à quel point les commerces de proximité, que c'était les boulangeries, qui étaient les boulangeries, les fromagers, les charcutiers, les bouchers, les cavistes. On avait vraiment ce lien social. On anime des territoires, on anime des centres-villes, on anime des quartiers, on anime des villages parfois. Et ce rôle-là, il est important, ça permet de garder du lien. C'est pas toujours facile d'être un commerçant dans le centre-ville. Il y a plein de difficultés, mais à côté de ça, c'est riche, c'est formidable. On touche plein de personnes. Voilà, on anime, on permet de garder ces quartiers, ces villes animées et vivantes. Et ça, c'est vrai que c'est un réel bonheur. Et puis, c'est aussi ça, quand je faisais un peu le parallèle tout à l'heure, je parlais des sommeliers, des différences qu'ils pouvaient avoir. Les sommeliers, c'est que un sommelier va peut-être toucher qu'une type de population, tout le monde n'a pas forcément les possibilités d'aller dans un restaurant où il y a un sommelier, il n'y en a pas tant que ça. Alors que nous, dans une cave, on a des personnes qui viennent acheter un bag-in-box, un bib de 5 litres de rouge ou de blanc, et on parle avec ces personnes-là, comme on a des méga spécialistes qui vont pouvoir nous parler pendant demi-heure de quelqu'un, et nous, d'un cépage ou d'un vigneron, et on a cette richesse-là de pouvoir parler au panel total de ce qu'il y a entre le grand connaisseur et puis la personne qui boit du vin un petit peu tous les jours, ça c'est génial, et on a porte voilà, du vin, et on porte le flambeau pour les vignerons dans ce large panel. Et ça, c'est vrai que c'est assez formidable.
Merci Gauthier.
Eh bien, merci de m'avoir accueilli surtout.
Avec grand plaisir. On peut vous retrouver sur www.assemblage-vin-bière.fr.
Tout à fait.
Et sur Facebook et Instagram, Assemblage Le Cep d'Or.
C'est ça. Exactement.
Merci beaucoup Gauthier.
Merci.
De notre côté, on se retrouve maintenant en septembre puisqu'il y a une petite pause estivale, et on vous souhaite de très belles vacances.